Radio Kapi.
Le journal, c'est avec Billy Van Lutumba.
Tout homme armé, militaire comme policier et ou en tenue ne doit se retrouver dans un bar, débit des boissons et autres milieux non autorisés, mesure rappelée par le maire de Goma lors d'une série de sensibilisations des différentes couches de la population pour les amener à s'approprier de la lutte contre l'insécurité dans la ville. Nous vous parlons de cette nouvelle initiative dans la province de la Tchopo. Il s'agit du composant biodiversité du programme de gestion durable de la faune, un mécanisme financier à utiliser pour soutenir la protection à long terme de la biodiversité. En tête de cette initiative, Siforicraf. Ketian Gomora de l'association des facilitateurs des biens et des services de première nécessité est invité de ce jour à Vespera sur Radio Okapi. Elle nous fait part des efforts et difficultés pour faire traverser la farine de maïs et de manioc du Rwanda vers la RDC. C'est l'heure à présent de découvrir les autres contours des faits d'actualité de notre pays d'Afrique et d'ailleurs. Bienvenue et excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Très chers auditeurs, bonsoir. Nord Kivu, face à l'insécurité persistante qui s'observe dans la ville de Goma et ses environs, le maire de Goma a amené une série de sensibilisations des différentes couches de la population pour les amener à s'approprier la lutte contre l'insécurité. C'est entre autres la société civile et cadres de base, mais aussi les tenanciers des bars et restaurants. Ces derniers ont été appelés à veiller pour que les militaires ou tout homme armé et en tenue ne puissent entrer dans un bar ou un autre milieu non autorisé. Tout en saluant cette mesure, la société civile demande au maire de faire un suivi rigoureux pour s'assurer que cette mesure soit respectée par ses hommes en armes. Sifamaguru.
Le commissaire supérieur principal Faustin Kamand Kapend a appelé les tenanciers des bars à collaborer et signaler au service de sécurité lorsqu'un militaire ou tout homme armé et en tenue fait son entrée dans un bar ou restaurant, ce pour éviter des abus et incidents sécuritaires qui sont enregistrés selon les messages du maire. Pour la société civile de Karisimbi, le problème réside dans les suivis des mesures prises par les autorités. Christian Kalamo.
La mesure que l'autorité urbaine a prise est l'interdiction des militaires dans des ngandas, dans des restaurants, formes et en armes. Et le grand problème est la mise en application de cette mesure-là. En arrivant dans d'autres quartiers comme Mugunga, Lac Vert, quartier Ndosho, quartier Majengo, Bujovu, vous allez constater qu'il y a toujours des militaires qui sont toujours là en train de consommer, en tenue militaire et avec des escortes. Et nous on se demande est-ce que c'est dans des ngandas ou c'est dans des restaurants où il y a la guerre.
Christian Kalamo rappelle la mesure prise par les gouverneurs interdisant la circulation des militaires et hommes en armes non en service dans la ville, mais qui n'est pas respectée jusqu'ici, dit-il. Goma Sifamaguru, Radio Kapi.
La société civile du groupement de Banande Kainama dans le territoire de Bénin au Nord Kivu appelle à l'organisation des patrouilles de combat par les forces conjointes FRDC-UPDF sur le tronçon Erengeti Kainama. Selon Bienfait Baraka, l'un des membres de cette structure citoyenne, cette demande est consécutive à la dernière attaque des rebelles des ADF qui a occasionné l'enlèvement d'une dizaine de civils dans la société de Maïsafi à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Beni. Il plaide pour la sécurisation de ce tronçon routier qui demeure la seule route reliant la province du Nord Kivu à celle de l'Ituri. Bienfait Baraka a été joint au téléphone par André Kitenge.
Après kidnapping d'une dizaine de civils dans la localité de Maïsafi, au cours de leur passage, les présumés ADF ont incendié des motos et emporté un sac de cacao à pleine brousse. Alors, vu que nous sommes dans une période de récolte, ces gens ont multiplié des attaques et embuscades à vue de terroriser les civils. Il serait bon pour toutes ces forces qui se trouvent dans la zone de multiplier des patrouilles de combat dans des villages, notamment Bang, Bolou, Bele, Kamungu, Nyamulagira et donc dans tous les villages qui se trouvent sur le long de la route Erengeti-Kainama pourra sécuriser ces tronçons qui relient deux provinces, notamment la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri. Cela permettra aux usagers de cette route une très meilleure circulation qui permettra les deux provinces de bien faire leur travail. Notre crainte est que lorsque les ADF vont continuer à multiplier des attaques, des kidnappings, la route risque d'être bloqué comme la route Luna Komanda.
Entre-temps, sur terrain, les combats se poursuivent pour la 7e journée consécutive ce dimanche entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les FRDC dans le village de Kasseye, situé à environ 60 km de Lubero, centre Nord Kivu. Des sources de la société civile locale indiquent que ces affrontements interviennent après une accalmie observée samedi soir dans les villages de Luofu, Miriki et Matembe. Selon Rigan Mbui Kalonji, porte-parole des opérations du front nord de l'armée, les FRDC ne font que riposter aux attaques du M23 qui tentent de contourner leur position en violation du cessez-le-feu. L'actualité nous amène à présent dans le Kasaï oriental. Le député provincial Trésor Lukusa s'investit pour mettre fin au conflit foncier qui oppose actuellement les habitants des groupements de Bakwandaya et Badiambelu à Chitolo dans le territoire de Katanda. Lors d'une visite de consolation organisée ce samedi dans cette partie de la province, l'élu de Chitolo a apporté une assistance humanitaire aux habitants de ces deux groupements. Il en a profité pour lancer un message de paix à ses électeurs. Écoutons le député provincial Trésor Lukusa au micro de nos confrères de la radio-télévision Fraternité Buenamuntu.
J'ai appris à travers le média que les maisons ont été incendiées dans le conflit foncier. Moi, je suis l'élu de Chitolo. Je suis venu vous demander en disant que dans le secteur de Chitolo, il y a un seul peuple. Dans le secteur d'Insang, vous trouverez qu'il y a les Bakwandaba et les Bakwaboa. Pourquoi nous incendions les maisons? Quel est le problème que nous ne pouvons pas résoudre nous-mêmes comme des frères et sœurs? Le territoire de Katanda ne se développe pas à cause des conflits fonciers. Que ceux qui ont créé des troubles cessent. On ne peut pas développer nos villages en incendiant les maisons des habitants. Je remercie le chef Jacques parce qu'il est très réceptif. Quand je l'ai appelé, je lui ai demandé de tout faire pour retourner la paix à Bakwandaya. Je lui ai dit que nous venons pour rechercher la paix. À Chitolo, il y a beaucoup de difficultés. Regardez comment nous avons souffert pour arriver ici à Bakwandaya. Depuis que nous avons quitté à 11h, nous arrivons ici à 14h.
Dans la province de la Tchopo, le Centre international pour la recherche forestière, CIFOR ICRAF, lance le composant biodiversité du programme de gestion durable de la faune à Kisangani. Il s'agit d'un mécanisme financier à utiliser pour soutenir la protection à long terme de la biodiversité en RDC. Cette nouvelle initiative, financée par l'Union européenne, va s'étendre sur une période de 2 ans, soit de septembre 2024 à juillet 2026. Elle va se concentrer sur le développement des méthodes scientifiques solides et rentables pour mesurer l'évolution de la biodiversité à l'échelle locale. Une cérémonie présidée par le vice-gouverneur Didier Lomoyo Iteku. D'autres précisions avec Jacques Mukonkole.
La composante biodiversité du programme de gestion durable de la faune à Kisangani sera mise en œuvre dans le paysage de Yangambi. C'est une zone connue pour sa biodiversité riche et sa grande valeur écologique. Ce projet va s'appuyer sur la présence de longue date du CIFOR ICRAF dans la région et son engagement à renforcer les systèmes de gouvernance locaux ainsi que la gestion communautaire de la faune. Il va fournir des informations précises sur la manière dont les crédits volontaires de biodiversité vont être utilisés. Ils les seront comme un mécanisme financier efficace pour soutenir la protection à long terme de la biodiversité en RDC, a déclaré Jonas Nyumu, coordonnateur du projet Diversité SoWild dans le paysage de Yangambi. Ce projet va utiliser certaines méthodes pour recueillir les données sur la faune et l'habitat, notamment une variété d'outils afin de surveiller la biodiversité telles que les caméras trappes, les capteurs sonores et l'ADN environnemental provenant d'échantillons d'eau et les méthodes basées sur les connaissances traditionnelles locales. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Et puis la promotion des petites industries par des jeunes entrepreneurs. Tel est le sujet qui était hier au centre de la conférence débat organisée par le ministre national de l'industrie avec des étudiants à l'université de Bunia. Louis Watum, qui séjourne en Ituri, est accompagné de plusieurs mandataires des entreprises publiques de l'État. Sadiki Aboubakar était sur place, voici son reportage.
La salle des conférences de l'Unibou était remplie des étudiants venus de plusieurs institutions universitaires de la ville. De son côté, le ministre de l'Industrie était entouré notamment des directeurs généraux des entreprises publiques telles que ANADEC, Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, le Fonds pour la promotion industrielle FPI, le projet transforme, etc. Dans les échanges, le premier étudiant évoque la difficulté de commencer et réussir à entreprendre dans le secteur formel dans un pays où le système fiscal contraint et décourage les initiatives. En réaction, l'Uatum reconnaît la situation et annonce des efforts du gouvernement pour la réforme.
Il y a certains avantages qu'ils vous ont donnés pour un certain nombre d'années. Vous avez certaines grâces fiscales. Donc, c'est vrai, avec même cette fiscalité allégée-là, elle reste encore lourde. On ne peut pas non plus s'attendre à ce qu'un entrepreneur réussisse lorsqu'on lui prête à un taux de 12%, 15%. C'est impossible. En toute réalité, un entrepreneur doit aller en dessous de 2%.
Viviane Kahanda de l'Université de Bounia a pour sa part demandé au gouvernement de financer les secteurs agricoles, comme c'est le cas dans le secteur de l'industrie, avec les projets Transform. C'est parce que, selon elle, l'agriculture vient en amont et l'industrie intervient pour transformer les produits champêtres dans l'agro-business. Bounia, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
La province du Maniema tend vers sa connectivité avec ses provinces sœurs. Les travaux de réhabilitation de près de 1000 km du nord, sud et du centre de cette province sont lancés par le gouverneur de province. Ces travaux sont financés entièrement par le gouvernement provincial à travers les fonds issus des taxes conventionnelles. Ils sont exécutés par l'Office pour l'entretien des routes de la province du Maniema, Operma. Le chef de l'exécutif provincial parle de l'une de ses recommandations de la première conférence sur les mines, l'énergie et les hydrocarbures. Florence Kizalunga.
C'est à ce rythme que dans la plupart des routes du Maniema, la population circule. L'impraticabilité des routes a un impact sur le prix des transports.
Transporter Kindo à Kailo, une personne, sa bagage, 25 000 francs congolais. Et si on ajoutait les bagages, c'est à 60 000 ou 70 000 francs congolais. Parce que l'état des routes est très mauvais.
Le début de ces travaux nourrit d'espoir la population de l'Onyoma à Kailo. Émile Abdoul.
En tout cas, nous voyons qu'avec l'arrivée de son excellence, monsieur le gouverneur, cela nous témoigne que non, nous allons observer maintenant le désenclavement et le développement de notre cher territoire.
Le maître d'ouvrage, Bartin Kalunga, promet dans 6 mois la fin de travaux.
Pour terminer ces travaux, j'ai mes représentants qui vont m'assister dans tous les accès, dans tous les tronçons. J'ai garanti la population dans 6 mois, tous les accès seront terminé.
Le gouverneur lui appelle à l'implication de la population. Moussa Kabankoubi.
Bien sûr, nous avons besoin non seulement de la confiance de la population, mais de sa participation. Parce que c'est une méthode IMO, haute intensité de main-d'œuvre, et la main-d'œuvre, c'est cette population-là. Donc nous avons besoin de l'implication totale de la population, parce que tout ce que nous le faisons pour la population.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Le parti Alliance pour le changement de l'opposant Jean-Marc Abound rejette le projet de la révision constitutionnelle lancé par le président de la République. Cette formation politique l'a exprimé au cours d'une matinée politique organisée hier samedi à Kinshasa. Pour les dirigeants de ce parti, ni le changement de la constitution ni sa révision ne sera toléré. On écoute Antoinette Bijou Bilali, vice-présidente du parti Alliance pour le changement, dans cet extrait proposé par Alain Hong.
Il viole intentionnellement la loi tous les jours. La loi qu'on appelle en lingala Bukulikondi, comment ils sont incapables d'appliquer cette loi qui les dirige, cette loi sur base de laquelle ils ont prêté serment, cette loi sur base de laquelle ils ont été informateurs, ils sont députés nationaux. Il y a même la CENI qui est CENI aujourd'hui à cause de cette constitution. Mais comment ils sont incapables de pouvoir respecter la loi? Ils violent la loi, la constitution, jour et nuit à ciel ouvert. Alors nous lançons le message au peuple, aux militants, de ne pas écouter ce genre de personnes. Ces régimes, il ne faut pas les écouter, il ne faut pas prêter attention, il ne faut pas prêter oreille à leur voix.
Signalons que 2 séances de sensibilisation à la modification de la Constitution se sont tenues hier à Bukavu et au sud Kivu. Le ministre d'État et ministre du Budget, Aimé Bouji, a réuni ses sympathisants dans la grande salle de la paroisse Mater Dei. Au même moment, un député national élu de Bukavu sur la liste d'élus d'EPS a animé une conférence débat dans l'amphithéâtre du collège Alpha Djiri. Avant de passer à la page internationale, dans la province de la Tchopo, les députés provinciaux renforcent leur capacité sur le suivi et le contrôle des processus et procédures d'exécution budgétaire. L'atelier y afférent est organisé par le projet GGA ou les activités de la bonne gouvernance avec l'appui de l'USAID. Cet atelier de 3 jours à partir du vendredi dernier est animé par un groupe d'experts parmi lesquels la professeure Bibish Liliane Salumu de l'université de Kisangani. Au micro de Jacques Moukonkole, elle explique les objectifs de ces assises.
Ce projet, en fait, vise à améliorer les connaissances des députés sur les suivis et les contrôles des processus et procédures d'exécution budgétaire, concrètement dans les secteurs de dépenses publiques, marchés publics et des plans prioritaires, et aussi de la mise en œuvre de la planification.
Quelle en est la finalité, professeur Bibiche?
C'est pour améliorer la qualité de la gestion financière de ressources publiques, mais aussi d'accroître la transparence, la redevabilité et la disponibilité des ressources locales pour un développement meilleur de la province. Pour cela, plusieurs thèmes ont été retenus afin de mieux outiller nos députés provinciaux. Nous avons le premier thème, c'est l'exercice de la tutelle, mission et rôle, ainsi que responsabilité de l'organe délibérant à côté de l'exécutif provincial. Le rappel sur les processus de planification, les processus budgétaires, techniques d'analyse, des documents budgétaires clés et du suivi des investissements publics.
Actualité internationale.
Des scènes de joie ont envahi Accra et d'autres régions du Ghana après la victoire de John Dramani Mahama à l'élection présidentielle. Candidat du principal parti d'opposition, le Congrès national démocratique, il a battu Mahamudu Bawumia, vice-président sortant et représentant du nouveau parti patriotique. Mahamudu Bawumia a reconnu sa défaite et félicité le nouveau président tout en saluant la décision des Ghanéens. Ancien président de 2012 à 2017, Mahama revient au pouvoir avec l'ambition de réformer un pays durement frappé par une grave crise économique.
L'invité.
Il s'agit de Kétia Ngomora. Elle travaille au compte de l'association des facilitateurs des biens et des services de première nécessité. Leur structure exerce au poste frontalière de Ruzizi 2 sous forme de courtier. Elle évoque les difficultés auxquelles elles font face pour faire traverser la farine de maïs et de manioc du Rwanda vers la RDC. Elle s'entretient avec Jean Kassami.
Bonjour madame.
Bonjour.
Oui, à propos de l'exonération des produits vivriers, il se pourrait qu'ici à la frontière, la règle n'est pas de mise.
Les autorités nous avaient annoncé qu'il y aurait des exonérations par rapport aux produits de première nécessité, précisément pour la farine, les farines de maïs et de manioc. Mais pour le moment, nous sommes encore en train de payer plus de 13 services. Alors, on se demande est-ce que l'exonération est effective ou soit les autorités avaient pris une décision qui ne sera pas prise en compte par les agents de l'État qui sont censés faire payer ces taxes-là.
Quels sont les principaux produits pour lesquels vous payez les taxes et pourtant exonérés?
Il y a la farine de maïs et la farine de manioc, les haricots et d'autres produits. Parce que nous, dans notre service, nous avons souvent la farine de maïs et de manioc. C'est ce que nous travaillons régulièrement.
Auprès de quels services on vous fait payer ces taxes?
Bon, nous payons plusieurs services. Nous payons la DGDA, nous payons la SCAV, nous payons... Donc, il y a plusieurs services. Il y en a plusieurs. Et si on peut les énumérer, tous les services qui sont ici pour faire payer les produits de première nécessité, nous arrivons même à 11, 12 ou 13. Parce que souvent, nous sommes même obligés de fuir certains services quand on se retrouve que non, il y en a plusieurs. On ne sait plus comment les payer tous.
Et en termes de plaidoyer, vous formulez quel souhait?
Nous souhaitons assez que cette exonération soit effective. Si l'État congolais pense qu'il faut exonérer ces produits-là, parce que par exemple pour la farine, c'est un produit qui est le plus consommé. Ici chez nous à Bukavu, tout le monde, donc je peux dire que 85% consomment la farine des maïs, si ce n'est pas des maïs ou des manioc ou les deux à la fois. Alors comme c'est un aliment très nécessaire et un aliment de base pour la population, donc si l'État pouvait appliquer cette exonération, ça va aider aussi sur les marchés la diminution de ces biens-là et aussi voir comment l'État peut améliorer les conditions de vie de la population.
Est-ce que vous êtes de l'avis de celles-là qui disent que du côté rwandais, il y a des produits qui ne traversent pas aisément comme ça s'est fait du côté congolais?
Oui, ça c'est vrai parce que il est difficile de faire quitter un produit en RDC et le faire traverser au Rwanda. C'est difficile. D'ailleurs, pour le moment, je ne peux pas vous dire exactement qu'est-ce que nous pouvons amener au Rwanda qui peut être accepté. Donc la plupart de nos produits sont refusés à leurs frontières. Alors on ne sait pas ce que notre pays peut faire pour que nos produits aussi puissent traverser la frontière et aller au Rwanda, être vendus sur les marchés rwandais. Mais ici chez nous, c'est les produits rwandais qui inondent nos marchés, donc que ce soit à la frontière, que ce soit dans tous les marchés, parce que ce sont les produits qui viennent du Rwanda. Même la farine dont je vous parle maintenant, ça vient du Rwanda aussi. Et nous les vendons sur notre marché. Mais nous, on ne peut pas prendre les mêmes produits et l'amener chez eux, quelle que soit la qualité.
Et comment se fait la traversée de ces produits-là? Est-ce que c'est vous-même, petite commerçante, qui allez jusqu'au Rwanda et les ramenez, ou ce sont les Rwandais eux-mêmes qui les font traverser la frontière?
Comme je l'ai dit au début, nous sommes les facilitateurs des biens et des services de première nécessité. Donc nous sommes à la frontière, nous faisons la liaison. Nous sommes comme des courtiers en marchandises. Donc nous faisons la liaison entre les commerçants rwandais, même les fournisseurs qui ont leurs usines de farine, de maïs et de manioc. Nous faisons l'intermédiaire entre eux et les commerçants, les petits commerçants du Congo. Alors nous allons là-bas, nous déposons l'argent pour la commande et puis nous venons avec les marchandises que nous donnons aux petits commerçants qui vont aussi vendre. Et après nous allons encore reprendre de l'argent pour encore acheter ainsi des suites.
Merci beaucoup madame.
Merci, je vous en prie.
À Kinshasa, il est 18h20. Mettons un terme à cette édition de journal préparée par Alain Hirong, Jacques-Yves Molim et l'ensemble de toute la rédaction. Alain Goy a assuré la prise de soins et la mise en onde et Billy Ivan Lutumba vous la présenter.